Lisons aujourd'hui la fin du livre des Proverbes. Et la spécificité de ce texte, c'est que c'est un texte alphabétique. Donc chaque verset commence par une lettre de l'alphabet hébraïque, donc de Aleph, Bet, Gimel, Dalet, jusqu'à Shin et Tau. Alors je ne vais pas vous le dire à chaque fois la lettre hébraïque, parce que ça romprait quand même le rythme du texte. Chapitre des Proverbes 31. Qui trouvera une femme de valeur? Son prix dépasse de loin celui des coraux. Le cœur de son mari a confiance en elle et le bénéfice ne manque pas. Elle lui fait du bien et non pas du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille de ses mains avec plaisir. Elle est comme les bateaux d'un marchand. Elle fait venir son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il fait encore nuit. Elle donne de quoi manger à sa maison. Elle donne ses instructions à ses servantes. Elle pense à un champ et la pierre. Du fruit de ses mains, elle plante une vigne. Ses reins de force, elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint pas la nuit. Elle met la main à la quenouille, ses mains tiennent le fuseau. Elle ouvre ses mains pour le pauvre. Elle tend la main au déshérité. Elle ne craint pas la neige pour sa maison. Toute sa maison est vêtue d'écarlate. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre rouge. Son mari est reconnu aux portes de la ville lorsqu'il est assis avec les anciens du pays. Elle fait des sous-vêtements et elle les vend. Elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de dignité. Elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Sa langue enseigne la fidélité. Elle surveille la marche de sa maison. Elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent, il la déclare heureuse. Son mari se lève, il la loue. Beaucoup de filles ont montré leur valeur. Toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté futile. La femme qui craint le Seigneur, voilà celle qui sera louée. Donnez-lui du fruit de ses mains, qu'aux portes de la ville, ses œuvres la louent. Didier, est-ce que tu nous fais une petite pause musicale? Sens de mon action. Suis-je au bon endroit avec les bonnes personnes? je fais ma part vraiment du plaisir et de la joie. Bien, se poser ces questions est risqué, car elles peuvent nous mettre en contact avec le non-sens ou le vide de notre existence. L'hyperactivité permet d'éviter ces questions qui angoissent et chagrinent. Dans notre société atteinte de fébrilité, qui encourage à une forme de boulimie d'activité, nous sommes encouragés à nous gaver d'engagement en tout genre, que ce soit dans la vie professionnelle, familiale ou dans nos loisirs. Alors ce qui est positif, c'est que nous restons toujours dans le mouvement, toujours dans la vie. Mais n'est-ce pas trop souvent pour nourrir une forme d'excitation? Il faut s'agiter sans cesse pour se sentir exister, courir, faire des courses, vite téléphoner à un ami, finir ce dossier dans l'urgence. Et même les siestes sont aujourd'hui des turbo-siestes. Il y a cette manière de vivre dans l'urgence et dans l'excitation est symptomatique d'une stratégie d'évitement. Éviter de se poser la question du pourquoi. Pourquoi cette action? Pourquoi cette relation? Quelles sont mes intentions quand je dis oui plutôt que non à cette invitation, à cette demande, à ce projet? Nous nous sentons débordés, accaparés, fatigués, vidés. Quand au lieu d'habiter notre temps, d'être vraiment présent à ce que nous faisons, nous devenons les victimes des logiques infernales dans lesquelles nous nous sommes laissés prendre. Mais comment ralentir? Comment nous inscrire dans la bonne voie? Comment être dans l'action juste? Bien, le texte que nous venons de lire fait le portrait d'une femme que l'on pourrait voir comme le portrait de la femme qui incarne l'action juste. Premièrement, elle se ressource dans ses activités. Deuxièmement, tout ce qu'elle fait a du sens. Et troisièmement, elle vit dans la confiance. Mais qui est cette femme? Alors, dans les traductions, les commentaires, on parle d'elle comme la femme de valeur, la femme énergique, la femme parfaite ou la femme de caractère. Et ce qui est certain, c'est qu'elle représente bien sûr un idéal. Ce qui est confirmé par la forme de notre texte, qui est un texte alphabétique. Chaque verset commence par une lettre de l'alphabet hébraïque. Et ainsi, en 22 versets, sont concentrées toutes les qualités d'une femme extraordinaire. Pour certains commentateurs, elle est la figure de la sagesse. Et le livre des Proverbes s'achèverait ainsi par cette description inspirante de la sagesse incarnée. Alors vous l'avez entendu, cette femme pleine d'énergie n'arrête pas du matin au soir, on pourrait presque dire du soir au matin. Et si certains ont pu voir en elle l'image de la femme exploitée par son mari, qui c'est vrai dans ce texte ne fait pas grand-chose, eh bien, je préfère y voir plutôt l'image de celle qui déploie avec bonheur toute son énergie de femme, de mère, d'entrepreneuse. Et je vous propose de lire ce texte ce matin en nous attardant sur les trois points que je viens d'évoquer et qui me semblent être trois critères de discernement de l'action juste. Donc, premier critère, elle ne s'épuise pas dans l'action, mais elle s'y ressource. Et cette femme, rien ne semble la fatiguer. Et l'énergie qu'elle déploie semble même se multiplier à mesure que sont décrites ses activités. Elle convoque toutes les forces de son corps, elle ceint ses reins, elle fortifie ses bras, elle modèle le monde qui l'entoure de la paume de ses mains. Il est cette fois question de la main dans ce texte. Elle dirige sa maisonnée, elle est artisane, commerçante, elle travaille aussi la terre et tout semble lui réussir. Avant même que le soleil se lève, elle plonge dans l'action et la nuit tombée, s'il le faut, sa lampe reste allumée. C'est une femme qui incarne le leadership féminin, une entrepreneuse qui n'économise pas ses forces. Et voyez-vous, ce qui est intéressant, c'est que elle donne sans cesse d'elle-même et elle se ressource profondément. Et ceci nous arrive quand nous sommes énergisés par ce que nous accomplissons. Quand on se sent à sa juste place. Et voyez-vous, si la tâche que l'on fait nous semble utile, même si elle est ingrate, si on a l'impression de contribuer à sa mesure, à la marche du monde, alors la fatigue n'est jamais écrasante. Et si l'on ressent la fatigue du corps, elle est toujours mêlée à la joie d'avoir fait de son mieux. Oui, les jours de cette femme sont tissés de la joie du pouvoir faire. Bien sûr, c'est une femme qui est privilégiée, qui a du pouvoir et les moyens de mener à bien ses projets, de les réaliser. Elle fait partie de l'élite. Quelle chance! A contrario, quelle tristesse quand on peut déployer sa force, quand on n'a pas les moyens de le faire, ou quand on est empêché par les circonstances ou par des personnes toxiques. Si seulement nous pouvions toutes et tous, comme cette femme, avoir l'opportunité de déployer dans notre vie toute notre énergie et toutes nos forces. Ce qui est important, c'est que nous avons des besoins des autres pour cela. Voyez-vous, cette femme, on lui donne les moyens de se réaliser. Sa personne et ses compétences sont reconnues. Son mari, ses fils sont fiers d'elle, ils reconnaissent sa valeur. N'est-ce pas un texte à lire à toutes les jeunes filles pour qu'elles ne se sentent pas bridées dans leur ambition et dans leur envie de s'accomplir? Et n'avons-nous pas à aider ces femmes qui ont envie de réaliser quelque chose et qui ont une vocation intérieure? Passons au deuxième critère de l'action juste. Tout ce que fait cette femme a un sens et son action incarne la sagesse. Toutes ses actions s'inscrivent dans le cadre de sa philosophie de vie. Et derrière ses activités, on touche à sa motivation profonde. C'est une femme qui est portée par la crainte de Dieu et habitée par la sagesse. Ce qui sort de sa bouche en témoigne. Vous l'avez entendu. Dans la traduction de la Nouvelle Bible Second, il est écrit qu'elle ne fait pas qu'agir, mais qu'elle investit aussi l'espace de la parole. Ainsi, au verset 26, elle ouvre la bouche avec sagesse. Sa langue enseigne la fidélité. Traduction de latin, elle ouvre la bouche avec sagesse et sa langue fait gentiment la leçon. Traduction gentillette. La traduction Bayard est moins mauvaise. Raison et sagesse à la bouche, elle garde sur la langue des principes bienveillants. Kachouraki est plus proche de l'hébreu quand il traduit. Elle ouvre la bouche avec sagesse, la Torah de chérissement sur la langue. On est bien loin de la gentille leçon ou de la bienveillance. Son action s'enracine dans la sagesse, dans la fidélité à Dieu. Elle enseigne et elle incarne son enseignement. Alors vous l'avez compris, tout ce qu'elle fait prend sens dans son lien à Dieu, mais également dans son lien à l'autre. Et on nous dit dans le même verset que sa main qui est étendue vers le fuseau s'ouvre aussi aux malheureux et se tend vers les pauvres. C'est une femme solidaire qui crée de la richesse et la partage dans une dynamique de production vertueuse. Elle tisse des vêtements pour sa famille et pour la vente, et elle tisse également des liens de solidarité. Elle ne jouit pas seulement du bonheur, du pouvoir faire, mais aussi du bonheur, du pouvoir partager. Et ce qu'elle produit va au-delà de la satisfaction satisfaction de ses propres besoins ou de la thésaurisation. Elle est généreuse. Cette femme donne du sens à sa vie en étant sans cesse en lien avec Dieu et avec les autres. Tout comme une femme médecin qui prie avant de recevoir un patient. Tout comme une femme au foyer qui prie le matin pour demander à Dieu de donner du sens à ses tâches ménagères et aux soins à ses enfants. Tout comme une femme juge qui demande d'être inspirée dans ses jugements. Tout comme une chef d'entreprise qui prie avant d'investir des capitaux ou d'engager une nouvelle personne. Et tout comme une femme poète qui demande l'inspiration pour toucher les cœurs. Ainsi ces mots de Colette Nismazur dans sa prière du poète, dont je vous lis deux extraits. Plutôt que vaine broderie, fin de complaisance ou jeu d'intellectuel, que le chant du poème soit issu des profondeurs de l'être, qu'il soit passerelle entre nous. Puis à propos des mots couchés sur la page nue, elle écrit encore qu'il court au devant des vivants, soulève la pierre des indifférences, ressuscite les somnolents, embaume les souffrants et célèbre ta grâce à jamais. Leur agir en tant que croyant, n'est-ce pas, pour reprendre les mots de Colette Nismazur, agir en trouvant sa source dans les profondeurs de l'être et vivre en célébrant la grâce de Dieu. C'est-à-dire en se laissant inspirer en tout temps par plus grand que soi. Alors, pour celles et ceux qui ne prient pas facilement, puiser à une autre source que soi-même, peut-être simplement de marcher dans la nature, de prendre un temps de silence, de lire un poème. Et chercher ainsi avec humilité sa force au-delà de soi, essayer ainsi de parler et d'agir avec sagesse pour soi et pour les autres, c'est vraiment une manière de ne pas limiter le sens de sa vie à la réalisation de ses seuls désirs. C'est nourrir une vision plus large et plus profonde de sa propre existence. Et cela vraiment permet de renouveler ses forces et sa motivation. Et puis, troisième critère de l'action juste, cette femme n'a pas peur du lendemain, elle se rit de l'avenir. La confiance l'habite. On nous dit qu'elle n'a pas peur de la neige. Et ni le froid de la neige, ni celui de la mort, donc, selon certains commentateurs, n'effraie celle qui est, nous dit-on, drapée de force et de splendeur. Sa manière de vivre le présent lui permet d'envisager l'avenir tranquillement. Elle s'inscrit dans une dynamique qui lui permet de renforcer sa confiance en la vie. Elle s'inscrit dans un cercle vertueux, dans une confiance qui déborde déjà sur le jour suivant. Je trouve que cette femme qui, dans le secret de la nuit, se prépare déjà à affronter le jour nouveau avec vigueur et avec force, c'est une invitation à se lever tôt le matin et à s'engager. Et à traverser chaque journée qui s'offre à nous en endossant avec détermination un rôle digne et fécond. Vous l'avez entendu, pour elle, rien ne semble impossible. Cette foi en la vie, je trouve, est un modèle parce qu'elle nous ouvre la voie de la joie. Cette femme s'élance dans la vie, elle attire le succès, elle est le modèle d'une présence au monde incarnée, positive, mais quelle vaillance! Je trouve que c'est un modèle à rappeler à tous les rabats-fous. Tous ceux qui n'y croient pas, qui vous découragent, qui se vautrent dans la paresse, et qui se plaignent par manque de courage et par manque de foi. Nous-mêmes, les jours où nous n'avons pas envie de nous lever, fin du livre des Proverbes peut être roboratif. Parce qu'il est vrai que quand nous n'avons pas envie de nous lever, bon, parfois c'est tout simplement parce qu'il nous manque quelques heures de sommeil. Mais souvent, si nous avons du mal à sortir du lit, c'est que les activités qui nous attendent ne sont pas vraiment en adéquation avec nos désirs les plus profonds et avec nos valeurs. Et je crois qu'il est important de nous rappeler aujourd'hui que nous ne sommes pas obligés de peiner au travail, de vivre les tâches quotidiennes seulement comme des contraintes, et de remplir notre vie de choses vaines, de perdre tristement le temps qui nous est donné. Oui, nous pouvons chaque jour trouver la joie. Ainsi, si nos actions sont justes, si elles ont du sens, si nous sommes sur la bonne voie, on peut même éprouver de la joie en faisant du ménage, du tri, de l'administratif. Éprouver la joie du travail bien fait, la joie de l'effort, la joie du devoir accompli, la joie des choses faites avec soin et avec minutie. Et c'est bien sûr la garantie de la joie du repos à venir et de la joie de goûter aux fruits de nos efforts. Alors pour ce début d'année, bien, c'est simplement cette joie que je vous souhaite. Et je vous souhaite de vous engager dans des actions qui vous ressourcent, vous énergisent, des actions qui auront du sens et qui vous donneront envie de rire en pensant à l'avenir.